much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Et c'est l'heure des arpètes. Chaque mois, on décrypte un nouvel enjeu de société au travers d'un essai, avec l'aide de nos invités. De la vulgarisation, des échanges d'idées, des découvertes et des rencontres, les arpètes, c'est votre brunch curieux du samedi midi pour nourrir nos réflexions, construire une culture commune et comprendre un peu mieux la société dans laquelle nous vivons. Et c'est tout de suite sur Prune.
Bonjour, peuple de Prune.
On espère que vous survivez aux tempêtes à répétition et que vous êtes devenues des randonneuses aguerries au fil des manifs. Alors le mois dernier, on vous parlait travail du sexe. Donc cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait vous emmener au 7e ciel.
Oh, mais c'est pas un peu prétentieux ça?
À peine ma chère, parce qu'aujourd'hui, samedi 1er avril, nous allons invoquer les astres et les puissances occultes de ce monde. Nous allons vous parler des liens et de l'histoire entre astrologie et politique.
En tant que taureau ascendant capricorne, je suis évidemment un peu sceptique face à un sujet aussi ésotérique que l'astrologie. Mais on n'est pas là pour parler de ses fondements scientifiques aussi peu convaincants qu'un discours d'Olivier Véran, mais bien pour parler du lien historique entre cette discipline nébuleuse et nos dirigeants d'aujourd'hui et d'hier.
Pour ce faire, nous recevons nos collègues pruniens et pruniennes de l'émission L'Histoire avec un grand I, historiennes et historiens de renom. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Thierry Lafleur, professeur émérite à l'Université de Nantes.
Oui, bonjour, merci.
Ainsi que de Karine Rinauda, également maîtresse de conférences à l'Université de Nantes.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et Julien Marel, professeur d'histoire à l'Université de Nantes, toujours.
Bonjour, bonjour à tous, merci de nous recevoir.
Ainsi que leur présentateur dévoué, Guillaume.
Bonjour, bonjour.
Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à 12h midi en fait, sur Prune ou en podcast sur prune.net et sur les autres plateformes. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes de grandes admiratrices de votre travail et de la rigueur de vos méthodes scientifiques. Nous avons de la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui car nous abordons un sujet très technique demandant une excellente connaissance de l'histoire, l'histoire avec un grand I pour s'y atteler, l'astrologie donc.
Déjà, ce sujet m'a fait de me pencher de nouveau sur la signification de mon ascendant. Et en tant que cancer ascendant taureau, j'ai découvert que je suis intérieurement ultra-matérialiste et que je dois toujours évoluer dans un environnement très familier. Bah merde, j'ai mis 26 ans à comprendre que je suis destinée à être de droite. Bon bah, du coup, désolé, hein, je vais passer à Radio Courtoisie pour la prochaine saison. Bisous.
Ah bah super. Si comme Lilia, vous avez un doute sur votre plan de carrière, vous pouvez vous rendre sur le site Astrothème pour bénéficier d'un accompagnement bien plus personnalisé qu'à Pôle emploi.
Alors, pour celles qui n'ont pas Instagram ou qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'attente de dentiste, l'astrologie, c'est quoi?
Eh bien, ça ne se résume pas qu'aux horoscopes de femmes actuelles. Les spécialistes vous diront même que ce n'est que de la broutille populaire et ont milité contre cette pratique qui n'est, selon elle, qu'une caricature simpliste de l'astrologie sur le plan technique. Les vrais astrologues sont des praticiens et praticiennes manipulant le zodiaque en allant bien au-delà du découpage en 12 signes astrologiques. La personnalité d'un individu ne se résume pas à son signe, mais aussi à son ascendant, la position de la Lune et des différentes planètes dans le ciel au moment de sa naissance. Alors, lorsqu'en plus de cela, on décide de s'atteler à la lecture d'une destinée commune et non individuelle, comme nous allons le faire aujourd'hui avec des questions politiques et de pouvoir, cela convoque bien d'autres savoir-faire.
En fait, pour bien clarifier les choses et éviter les amalgames, il faudrait plutôt parler d'art divinatoire, dont l'astrologie n'est qu'une partie. Ce sont des savoirs ancestraux qui échappent à notre cartésianisme et permettent de déchiffrer les secrets de la vie et du destin. Il existe de nombreuses pratiques, mais les plus connues sont la numérologie, l'astrologie, la chiromancie ou chiromancie, ou encore le tarot. D'après la sociologue Céleste Tessier, il existe pas moins de 624 praticiens et praticiennes certifiés en France, reconnus par la Haute Autorité des Arts Divinatoires, basée à Saint-Sulpice-le-Guérétois dans la Creuse.
Pour aborder ce sujet, nous nous sommes partagés la lecture de l'essai « Des astres politiques » de Céleste Tessier, fille d'Elisabeth Tessier, l'astrologue bien connue pour sa longue collaboration avec François Mitterrand. Céleste Tessier est sociologue spécialisée en nouvelle et ancienne spiritualité et également astrologue conditionnaliste.
Son ouvrage, paru en 2022 aux éditions Trajectoire, nous offre une analyse finement documentée des mœurs ésotériques des puissants de la République française et européens des années 1800 à nos jours, en faisant quelques détours historiques pour articuler la naissance de ces pratiques avec leur influence d'aujourd'hui.
Comme d'habitude, nous nous sommes partagés la lecture selon la méthode de l'arpentage entre Lilia, moi, Guillaume et nos invités, chacun chacune lisant sa partie sans connaître ni prédire le reste de l'ouvrage. Nous allons sans plus attendre le reconstituer tous ensemble.
Allez, c'est moi qui commence à vous emmener dans un monde où les astres font et défont l'histoire et où la divination rime avec Macron démission ! Pardon, réflexe. Tiens, comme on parle de Macron, l'introduction du livre parle des événements récents dans la politique française et notamment de notre cher gouvernement. Parce que oui, leur incompétence notoire pourrait aussi s'expliquer par leur lien avec les sciences occultes. L'autrice Céleste Tessier, astrologue conditionnaliste de son état, explique elle-même être en contact régulier avec Éric Ciotti, mais aussi Elisabeth Borne, comme quoi les étoiles n'ont pas de couleur politique. On apprend donc qu'Éric Ciotti, président du groupe Les Républicains, a régulièrement recours au conseil d'une liseuse en boule de cristal. Mais bon, quand on a la boule à zéro et la tête aussi vide, ça ne s'invente pas. Et Elisabeth Borne, première ministre, serait pour sa part plus portée sur la numérologie, avec l'obsession pour un certain nombre que l'on connaît tous. J'ai donc découvert qu'il existe une sorte de MEDEF d'astrologues en lien avec les plus hautes sphères politiques de notre pays. Selon l'autrice, chaque président de la Ve République a eu sa voyante ou son voyant attitré, avec chacun et chacune des pratiques différentes, mais qu'elle ne détaille pas dans cette partie. Bon, je vous avoue qu'avec tout ça, pendant une partie de ma lecture, je sautais partout et je rêvais de brûler des trucs. Genre on se tape des politiciens aussi pourris qu'ils ne sont pas capables de s'appuyer sur des analyses scientifiques et des faits concrets, et juste du bon sens, pour prendre des décisions qui vont toucher des millions de gens. Ah, je vous avais dit que j'étais colère. Par exemple, tout le monde se souvient de la Coupe du Monde de foot de la honte au Qatar. Eh bien, le comité de la FIFA qui a étudié les candidatures était conseillé par un groupe d'astrologues qui leur ont dit qu'en été 2022, Jupiter serait en maison 3, donc grosse arrivée d'argent, et que la rétrograde de Mercure dans le décan lunaire assurerait une température optimale de 25 degrés. Bon, ben, je vous laisse apprécier l'efficacité des 10 conseils aujourd'hui. Faut dire que c'est tellement plus disruptif que de lire un rapport du GIEC ou d'Amnesty International. Cette découverte des liens, encore aujourd'hui dans les sphères politiques les plus hautes et avec une telle influence, ça m'a pas mal démoralisée. Du coup, plutôt que d'aller vers le militantisme écolo, bah, j'hésite à me lancer dans les conseils à la McKinsey. Lire l'avenir dans les boules de kombucha détox pour 600 000 euros, pour prédire que les méga-bassines seront contraires à l'alignement des planètes. Cette fois, le découpage du livre s'est arrêté à la fin de cette longue introduction, et après une telle lecture, j'aurais presque envie d'attribuer ça à la numérologie. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui a pu être écrit ensuite, et j'ai hâte de l'entendre et de connaître votre analyse, Guillaume.
Et oui, merci Lilia. Alors, en ce qui me concerne, j'avais à lire la partie suivante, alors précisément de la page 28 à la page 56, où l'autrice Céleste Tessier vient faire un flashback historique en parlant de sa lignée familiale qui est très particulière. On l'a dit en présentation. Céleste Tessier est la fille de Elisabeth Tessier, qui s'est fait connaître en France autour des années 80. Si elle était astrologue bien avant cette période, c'est à cette époque qu'elle a changé sa pratique. Elle a comme pivoté son business plan, comme on dirait aujourd'hui, avec l'idée brillante de se rapprocher du monde politique qui lui semblait, je la cite dans le texte, partir complètement en couille. Alors, après avoir tenté plusieurs approches, Valérie Giscard d'Estaing d'abord, Georges Marchais ensuite, puis d'autres, c'est finalement François Mitterrand qui lui ouvre les portes de son bureau. Alors, d'après le livre, le président français est à la fin de son premier mandat et en grande difficulté dans les sondages. Donc, il est en fait, d'après ce qu'on comprend, à la recherche de tout ce qui pourrait le faire réélire en mai 1988. Et il se tourne donc vers l'astrologue Elisabeth Tessier et à sa science de l'astrologie, un peu comme on se tourne en dernier ressort vers un peu n'importe quoi, quoi. Il n'avait plus rien à perdre. Ma partie ne détaille pas vraiment ce que Elisabeth Tessier va mettre en place pour aider le président d'alors. On devine là que l'autrice veut comme garder le suspense et aborder la question en détail dans un prochain chapitre du livre, un peu plus tard. Alors juste avant de ma partie, par contre, elle remonte encore plus dans le temps et dans son histoire familiale, racontant que ses compétences professionnelles viennent finalement d'une lignée matrimoniale et ont été transmises entre divinatrices, cartomanciennes et autres astrologues en tout genre. Ma partie s'arrête grosso modo au moment où elle remonte à ses ancêtres les plus lointaines. On devine qu'il va s'agir là de traiter de la place de la divination depuis le début de l'histoire, l'histoire avec un grand I bien sûr.
Bien évidemment, et alors moi j'ai eu la partie suivante, de la page 56 à la page 56, pendant 127 pages. Il faut savoir qu'Elisabeth Tessier est numérologue et est passionnée par le chiffre 56, et donc toutes les autres pages du livre resteront à la page 56. Donc Céleste Tessier, pardon j'ai dit Elisabeth Tessier, c'était Céleste Tessier, sort cet ouvrage en 2022 aux éditions Trajectoire, et on y parle de sa mère effectivement, qui était la voyante de Mitterrand dans les années 88, et vous l'avez rappelé Lilia, c'est assez intéressant, c'est que chaque président de la 5e République a eu un ou une conseillère en astrologie, mais ça remonte bien avant ça. Ça remonte en fait, les premières apparitions, alors, c'est ce que détaille ma partie, la première apparition des conseillers politiques en astrologie nous vient de Jules César, moins 54 avant Jésus-Christ. Jules César se dit qu'il a bien besoin, lui aussi, d'être réélu tel un Mitterrand de l'ancien temps. Il a testé beaucoup de choses et à cette époque-là, il décide de diviser sa population en 13 signes astrologiques qu'on connaît bien tous aujourd'hui, sauf un signe qui a disparu dans le temps, le signe du lézard. Et donc, Jules César crée en fait à cette époque, à l'aide de son conseiller astrologique Pantoine de Mondragon, ces 12 signes astrologiques et décide d'attribuer à l'ensemble de sa population ces signes. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que les gens se sentent appartenir à quelque chose, à une grande famille. Un 13e de la population ensemble se lie. Et donc déjà, Jules César, par son statut de lion, a lui-même une partie de la population qu'il soutient d'office. Et Jules César, très malin, décide d'éliminer dès à présent le 13e signe, le lézard, en désignant comme ennemi public un 13e de la population qui a été affecté au signe du lézard. Et c'est pour ça que le signe a disparu par la suite. C'est parce que Jules César a fait une véritable vendetta à l'encontre et en désignant cet ennemi commun. Et donc voilà, c'est diviser pour mieux régner, c'est retourner 12-13e de la population contre 1-13e de la population, une stratégie qu'on a retrouvée par la suite en politique. Et donc Céleste Tessier le détaille très bien de la page 56 à la page 56. C'est une stratégie politique qui remonte dès alors. Et en fait, à la base, les signes astrologiques, c'est ça. C'est une stratégie, rien de plus.
Alors oui, c'est vrai, c'est intéressant du coup ce que vous dites, parce que ça fait écho à ce que j'ai lu moi dans la suite de l'ouvrage, donc de la page 56 à la page 56 comme vous l'aviez dit. Donc moi ça s'étale sur une cinquantaine de pages où finalement Céleste Tessier nous explique où sont rendus finalement, où s'est rendue cette pratique-là aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'elle a toujours perduré. Il faut savoir que durant tout le Moyen-Âge, il n'y avait absolument pas d'astrologie, ça a totalement disparu. Et ça a commencé à revenir au moment de la Renaissance, notamment grâce à François Ier, qui lui-même avait une voyante également à son service, qui lui expliquera donc les différents signes astrologiques, qui lui expliquera donc où sont passés les lézards, que les lézards ont totalement disparu. Et finalement, c'est à partir de là que se créerait l'ordre, et c'est ce qui perdurerait encore aujourd'hui finalement des reptiliens, dont on parle beaucoup en politique, dont on parle beaucoup dans les hautes sphères sociales, finalement ces reptiliens qui auraient disparu, et je mets des grosses guillemets avec mes doigts, ce n'est pas très radiophonique certes, mais du coup voilà, c'est à ce moment-là que finalement François Ier, qui lui-même, au vu de ce que lui dira sa voyante, s'identifiera comme lézard.
Donc en fait, si je comprends bien ce que vous dites Thierry, c'est que les reptiliens sont en fait 1/13 de la population qui correspond au signe astrologique disparu.
Exactement.
Donc ça remontera à Jules César hein.
Ça remonte
d'après Céleste Tessier.
D'après Céleste Tessier, oui. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Du coup, je n'avais pas lu ce passage sur Jules César. Moi, j'ai lu ce moment où, justement, c'est François Ier qui décrète que lui-même est un lézard. Donc il remet les lézards, mais ça va rester caché. C'est quelque chose qui ne va pas être dit. François Ier ne va pas se vanter de faire appel à l'astrologie. Il y a comme une forme de honte, si vous le voulez, à cette époque, qui était justifiée d'ailleurs, hein, parce qu'une fois, ça avait failli fuiter et tout le monde s'était moqué de lui. Donc il n'avait plus jamais parlé de ce sujet-là. Donc finalement, voilà, c'est quelque chose qui va rester dans l'ombre, qui va rester caché. Mais François Ier va regrouper autour de lui, finalement, tous les autres lézards qu'il va croiser, tous les gens qui ont le même tempérament que lui et qui, finalement, auraient le même destin. Et donc, voilà, donc là, il y a tout ce passage que Céleste Tessier nous explique. C'est cette quête de François Ier de rassembler les lézards, de rassembler ce qu'on appellerait aujourd'hui les reptiliens. Et mon passage s'arrête là.
C'est très intéressant parce que ça met en lumière quand même ma partie qui va de la page 56 à la page 56. Je comprends un petit peu mieux les enjeux de cette partie. Alors, en effet, j'ai lu ce chapitre qui finalement traite de la projection dans le futur, hein, qui est quand même le propre de l'astrologie. Hein, c'est ce qu'on attend, c'est ça qui nous permet de diminuer nos angoisses, de contrôler un peu plus notre avenir. Et cette projection dans le futur, je vous le donne en mille, elle parle de l'année 2056. Une année pour laquelle, selon Céleste Tessier, il y aura finalement un retournement de situation très très important du mouvement reptilien. Il se pourrait, en effet, selon elle, en tant que sociologue, elle défend l'idée qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui auraient le signe lézard caché en eux. Ce serait comme un accroissement de cette partie de la population. Et en fait, sa grande crainte, finalement, serait que ces reptiliens cachés parmi nous retournent complètement la politique. Alors, le point d'interrogation qu'elle laisse, c'est on ne sait pas si ce sera dans un bon ou dans un mauvais sens. C'est un questionnement auquel elle n'a actuellement pas la réponse.
Merci beaucoup pour vos éclairages sur les parties précédentes. J'avoue que je bouillais d'impatience d'en savoir plus, parce que j'étais plutôt sceptique sur le sujet en commençant le livre. Mais la lecture de la dernière partie du livre « Désastre politique » a éveillé ma curiosité et m'a fait prendre conscience que c'est finalement un pas de côté qui s'opère avec cette infiltration de l'astrologie dans les questions de pouvoir. Mmh. Et ça propose vraiment d'observer la situation et l'avenir sous un autre angle. Dans sa conclusion, Céleste Tessier met en lumière les groupes qui militent pour la multiplication des pratiques de l'astrologie dans la gestion des affaires publiques, qui sont probablement des reptiliens. Du coup, maintenant que vous faites remarquer je me rends compte que c'est à peu près évident. En effet, l'innovation n'est pas réservée qu'au monde de la tech. Tous les jours, des professionnels planchent sur de nouvelles méthodes divinatoires. En 2019, le GIEC, le groupe d'experts interdisciplinaires sur l'ésotérisme et compagnie, travaille sur de nouvelles techniques, mêlant lecture des corps célestes, pratiques occultes, vaudou et même alchimisme. Ce pôle de recherche et développement est crucial pour les branches occultes du gouvernement afin qu'elles puissent s'adapter aux changements, tels que l'avènement des nouvelles technologies qui a bouleversé des disciplines telles que la bibliomancie, l'art de lire au hasard dans les pages. Ce qui a d'ailleurs un petit peu freiné l'arrivée au pouvoir des reptiliens qui étaient habitués aux méthodes très traditionnelles et qui n'avaient pas du tout prévu l'arrivée des outils techniques. Mais aujourd'hui, donc, ce fameux GIEC creuse ces techniques-là avec notamment de bonnes pistes comme l'utilisation de l'outil « lire une page au hasard » sur Wikipédia qui se rapproche de la technique ancestrale de bibliomancie. Céleste Tessier se réjouit également de la création d'un double diplôme d'État de la Sorbonne en astrologie et tarologie qui travaille en étroite collaboration avec les étudiants et étudiantes de l'ENA sur des workshops visant à améliorer les compétences étatiques en matière de prévision des événements à venir, notamment des catastrophes écologiques et sanitaires qu'on pourrait voir advenir dans le futur. Donc ce secteur, bien que confidentiel, a donc bel et bien le vent en poupe et bien ancré dans l'histoire de notre pays, mais aussi dans son présent. La collaboration entre politique et ésotérisme est donc bien loin d'être terminée.
Merci à tous de vous être prêtés au jeu de l'arpentage. Notre discussion est loin d'être terminée, puisque suite à cette restitution de lecture, nous allons pouvoir creuser davantage la question avec l'équipe d'historiens et d'historiennes de l'Histoire avec un grand I.
Mais avant ça, on se fait une petite pause pour reprendre nos esprits avec le morceau Horoscope de la chanson du dimanche.
Il y a des taureaux, dans ton horoscope, il y a des gémeaux, des béliers. Dans ton horoscope, tout le monde est riche, dans ton horoscope, tout le monde travaille. Dans ton horoscope,
amour,
c'est la pêche,
travail,
c'est la pêche. Dans ton horoscope,
beauté,
c'est la pêche,
santé.
C'est la pêche,
c'est la pêche.
Dans mon horoscope, il y a des chauveurs. Dans mon horoscope, il y a des moches, des très moches. Dans mon horoscope, il y a des pauvres. Dans mon horoscope, il y a des malades. Dans mon horoscope,
amour,
ça dépend.
Travail,
ça dépend. Ça dépend des gens.
Beauté,
ça dépend.
Santé,
ça dépend.
Bah oui, forcément, ça dépend.
Mais évidemment,
ça dépend des gens. Il faut faire des bonnes catégories. Par exemple, si je prends l'horoscope des laits, je lis amour dur dur.
Ah bah oui, forcément.
Forcément. Et ça, c'est vrai pour tous les laits.
Ah oui, oui. Même pour les gémeaux laits.
Même pour les gémeaux laits.
Ouais, il semble être un gémeau beau.
Travail stressant. Ouais, ça c'est sûr. Argent, ah, ça va. En même temps, ils ont que ça à faire. Hein. Et ça ouais.
Tu l'as pas dans ton horoscope, tu l'as pas dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope, moi je l'ai dans mon horoscope. Tu l'as pas dans ton horoscope, tu l'as pas dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope.
Dans mon horoscope.
Tu l'as pas dans ton horoscope, moi je l'ai dans mon horoscope.
Dans mon horoscope.
Tu l'as pas dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope.
Attention, paré pour le décollage. Voyage intergalactique.
Constellation du Taureau. Constellation du Bélier. Constellation Verseau. Constellation du Sarcou. Oh, 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 oh.
Eh ouais, et tout ça.
Tu l'as pas dans ton horoscope, tu l'as pas dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope, moi je l'ai dans mon horoscope. Tu l'as pas dans ton horoscope, tu l'as pas dans ton horoscope. Moi je l'ai dans mon horoscope.
Dans
on est de retour sur Prune 92 FM, vous écoutez l'émission Les Arpètes. Aujourd'hui, samedi 1er avril, nous abordons le thème des arts divinatoires et de la politique. Et en première partie d'émission, nous avons arpenté le livre Des astres politiques de Céleste Tessier.
Et c'est maintenant le moment de l'interview. On le rappelle, nous sommes en présence de l'équipe de l'émission L'Histoire avec un grand I. Julien Marel, Karine Rinauda et Thierry Lafleur, historiens et historiennes.
Oui. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste.
Nous avons évidemment beaucoup de questions à vous poser. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à des spécialistes de l'astrologie et des sciences occultes. Pour commencer léger, quels sont vos signes astrologiques respectifs et à quel point votre thème astral influence selon vous votre métier d'historien et d'historienne?
Oh là là, ne nous lancez pas là-dessus parce que c'est un... C'est un débat qu'anime entre nous.
Ne lancez pas Julien. C'est-à-dire que je vais être le cartésien autour de cette table. Moi, voilà, vous me demandez mon signe astrologique.
Vous êtes Sagittaire, c'est ça ?
Je ne le connais même pas. Voilà, je ne le sais même pas.
Il fait son intéressant. Voilà, je ne le connais pas.
Je peux vous parler de l'astrologie dans l'histoire, mais par contre, voilà, sur vraiment ce qui s'est passé, si elle a vraiment une influence réelle, pour moi, c'est non. Voilà, je vais être le cartésien, le rabat-joie de cette table. Voilà, contrairement à Julien à côté de moi.
C'est un comportement typique d'un Sagittaire, ça.
Mais évidemment, on va vous rigoler. Enfin, bon, alors moi, je ne crois évidemment pas à l'astrologie. C'est un art divinatoire. C'est n'importe quoi. On l'a dit. C'est Jules César qui l'a inventé en moins 54. Par contre, ce en quoi je crois, c'est que des animaux ont marqué l'histoire. D'accord. Des gens se sont identifiés pendant des milliers d'années à des animaux. Et à mon avis, ça a du sens. Et donc moi, je revendique fièrement le signe astrologique du gibbon. Du gibbon.
Le singe.
D'accord. Sur quelle base ? Pardon, excusez-moi.
La base que Karine...
Pourtant, le roi lion est bien plus connu que le roi gibbon, finalement.
Alors, oui, on n'a pas fait des films sur les gibbons, effectivement. Les lions adorent le rappeler. Mais non, rien à voir. C'est que... des gens s'identifient à des animaux de tout temps. Un exemple connu, Cléopâtre.
S'il vous plaît, un exemple. Elle
s'identifie à un scarabée.
Oui.
On a des livres là-dessus. Mmh. Vous ne pouvez pas le nier, Thierry.
Non, je ne le nie pas, mais c'est juste que voilà, aujourd'hui, l'astrologie, c'est sur les 12 signes inventés par Jules César.
13.
Les 12. Voilà. Il y a un 13e qui. Aujourd'hui, l'astrologie. Si vous allez voir un astrologue aujourd'hui, Il va vous signer à partir des 12 signes.
Si vous allez voir un astrologue aujourd'hui, il va vous prendre 50 euros pour vous dire que vous êtes un poisson et un gros con, Thierry.
Julien, calmez-vous, d'accord ?
Pardon, excusez-moi, je suis un peu fort.
Donc Thierry Lafleur, vous récusez complètement cette théorie des lézards devenus reptiliens ?
Non, justement, je pense qu'il y a, en effet, il y avait le lézard lorsque Jules César l'a introduit. François Ier s'identifie en tant que lézard. Ça, je le sais, je suis expert de François Ier. Il s'identifiait en tant que lézard. Voilà, il avait besoin finalement de se rassurer. Il avait besoin de cette science occulte pour lui, pour se rassurer et du coup se dire qu'il était un lézard, qu'il était au-dessus, qu'il était spécial.
Vous avez d'ailleurs écrit un livre juste sur ce sujet.
Voilà, totalement. Ça s'appelle François le lézard. Voilà. Et voilà, c'est aux éditions Flammarion.
C'est marrant qu'il y parle à la fois de son amour pour les lézards, l'animal. Et à la fois, il y a une partie du bouquin qui est quand même dédiée son amour pour l'imitation de l'animal.
Oui, mais ça se confond souvent, finalement.
Ouais.
C'est-à-dire que lui-même se prenait à ses heures perdues pour un lézard. Il y a très peu d'écrits, il y a des témoignages qui sont restés. Ça a été un long travail de récolte et de recherche, mais finalement, voilà.
Moi, j'étais là, moi, pendant que vous avez fait au Grand Congrès des historiens, quand vous avez fait votre conférence. Et vous-même, vous êtes un fin imitateur de lézard. À mon avis, votre signe astrologique devrait être le lézard et pas le Sagittaire.
J'essaie de retranscrire au mieux ce que j'écris dans mon livre. Voilà, parce que j'ai dû écrire l'imitation du lézard avec des lettres. Pareil, long travail de recherche. Et j'ai finalement réussi par le faire. Donc oui, on m'a demandé de le faire en convention. Mais non, je ne le referai pas ici, Julien.
J'ai rien demandé.
Ce qui est intéressant, finalement, c'est que dans ma partie du livre, il y avait quand même toute une explication du fait que, selon Céleste Tessier, les personnes qui nient complètement l'existence de l'astrologie seraient en réalité des lézards. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Lafleur ?
Je ne vais pas entrer dans ce débat. Là, on va se mettre à parler vraiment d'astrologie. Enfin, quand même, chers consoeurs, chers confrères, si nous avons été invités ici sur cette émission... c'est bien justement pour parler de l'histoire, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on peut recentrer le sujet, s'il vous plaît, Karine, Julien, Guillaume ?
Ça va finir comme notre dernière soirée, sinon.
Donc, dans l'histoire, François Ier nous ramène le signe du lézard. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a des reptiliens, peut-être, on ne le sait pas. Mais dans l'histoire, en effet, après François Ier, il y a eu des reptiliens qui ont marqué l'histoire. Et c'est peut-être de ça dont on devrait parler.
On va revenir à l'histoire, vous avez tout à fait raison. En parlant de François Ier et de ce qui s'est passé ensuite, le poste d'astrologue royal a été récusé en 1682. Mais du coup, est-ce que pour autant c'est la fin de l'influence astrale dans la politique de notre pays ou est-ce que ça a encore continué après ?
Non, je dirais que ça a évolué. C'est le moment où on s'est mis à s'intéresser par la politique à travers les dés et autres formes de hasard. Donc le lancer de pièces, le dé à 6 faces, à 20 faces a été inventé à ce moment-là, le dé à 10 faces. Et chacun de ces numéros était associé à une planète. Et donc c'est une forme de mélange entre la numérologie et l'astrologie, qu'on appelait la délogie, en rapport avec l'objet utilisé. Et donc on lançait un dé et on prenait une décision en fonction de... Le jeu Donjons et Dragons avait d'ailleurs été inventé à cette époque sur ce principe. On lance un dé et on voit le chiffre et puis on prend une action en conséquence.
Mais donc l'information que vous avez récoltée est tout à fait exacte, c'est-à-dire que je me souviens plus de... C'était le voyant royal, non, vous disiez
L'astrologue royal.
L'astrologue royal, voilà, parce qu'en fait ce titre a disparu après François Ier ou pendant François Ier, car justement il y avait cette honte autour de l'astrologie, etc., cette croyance finalement qui n'était qu'une croyance. Et du coup, l'astrologue royal est devenu finalement le délologue royal. C'est-à-dire qu'après, on le faisait avec des dés. Donc il était toujours là, finalement. Il y avait toujours cette personne qui était à la cour et qui s'occupait de la divination, mais ce n'était plus un astrologue.
On présente souvent l'astrologie comme quelque chose de populaire, une discipline de bonnes femmes, diront certains. Mais du coup, si les rois en avaient honte, c'est que c'était plutôt mal vu par le peuple. C'était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas pratiqué par le peuple.
Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, le peuple associait vraiment l'astrologie à la royauté. Et c'est pour ça que les astrologues royaux ont été fortement remis en question. D'où l'invention de la délologie et du délologue. Et finalement, il y a eu un glissement de l'intérêt de l'astrologie, de la royauté, vers le peuple dans ces années-là.
Ça s'est joué autour de l'éducation, en fait. Mmh. C'est simple. Quand vous êtes son éduqué, vous ne savez pas forcément ce que c'est une planète. Est-ce que vous connaissez Saturne si vous n'êtes jamais allé à l'école? C'est pas quelque chose que vous pouvez voir.
Alors
vous
qu'avec le dé, on est sur un outil beaucoup plus accessible.
Exactement. Alors que eux, les nobles, allaient à l'école et donc savaient ce que Saturne était. Donc, pouvaient s'imaginer Saturne en rétrograde, là où un fermier, à l'époque de François Ier, ne pouvait concevoir Uranus en berne.
Et d'ailleurs, on l'oublie, mais à l'époque, tout le monde avait un dé ou deux dans sa poche et s'en servait pour prendre des décisions à longueur de journée. C'était monnaie courante, finalement.
Ouais, quasiment tout le XVIIe siècle, oui. Tout le XVIIe siècle était marqué justement par cette période chaotique où tout était choisi au hasard. Et donc, on avait vraiment une France en prise au chaos pendant tout le XVIIe siècle. Heureusement, pendant le XVIIIe, la délologie s'est calmée. La pratique de la délologie s'est faite plus rare. Mais tout le XVIIe siècle, toutes les décisions se faisaient au dé.
En fait, c'était très lié aussi au nombre de faces des dés. Par exemple, toute la période où les gens ont utilisé un dé à 12 faces, ça allait vraiment très très mal parce que c'était du hasard assez fort. Dès qu'ils ont décidé de repasser à 6 faces, tout de suite, déjà, il y avait un petit peu plus d'or. Voilà. Bon, la conclusion finale, ça a été de dire on ne met qu'une seule face et du coup, on enlève le dé, on arrête de prendre des décisions. Et ça a résolu tous les problèmes. Mais ça a mis un petit peu de temps, finalement, pour que le peuple accepte de perdre cet outil qu'il avait l'habitude d'avoir dans la main. C'est quand même assez... Ça permet de ne pas être trop stressé, d'avoir toujours un dé comme ça qu'on peut jeter.
Et il s'est passé des choses très graves à cette époque-là. Oui. Parce que forcément, on prend toutes des décisions au hasard. Il ne peut que se passer des choses... Il va se passer des choses mauvaises. C'est la loi des grands nombres. On a inventé des choses à l'époque.
La ville de Metz, déjà, pour commencer.
La ville de Metz, en premier lieu. Moi, je pense au spectacle de marionnettes.
Oui, le marionnettisme qui a été inventé dans cette période également.
L'idée désastreuse.
On voit où on en est aujourd'hui avec le marionnettisme.
C'est aller trop loin. Enfin, c'est...
Et la ventriloquie, bien sûr.
La ventriloquie.
très lié.
Très lié au marionnettisme.
C'est pratique d'astrologie et de délologie.
Ça fait très bien le lien avec la question suivante, puisque donc on parlait des outils qui ont rendu la divination populaire et accessible pour le peuple. Et je voulais vous interroger sur un point un peu plus spécifique qui m'a marqué lors de ma lecture. Céleste Tessier survole une pratique sans la détailler. Elle parle de la pratique de la lecture dans le poil de la main. Alors je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un peu plus. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que c'est une discipline récente ?
Alors d'abord, il faut recentrer justement sur que sont devenus les astrologues, les délologues, quand cette pratique s'est faite plus rare. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, à un moment, dans le 19e siècle, ces personnes étaient très très mal vues, notamment parce qu'ils avaient introduit le marionnettisme et la ventricolie Dans la ventriloquie, pardon.
Ils ont aussi, introduit la ventricolie.
Oui.
La ventricolie
mais
qui,
ça,
qui
fort
a,
heureusement
disparu
a disparu aujourd'hui.
Mais voilà, toutes ces pratiques qui finalement mettaient le peuple en pétard et ils se sont fait exiler à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Donc oui, en fait, toutes ces personnes...
D'où la création de la haute autorité à cet endroit-là.
Exactement.
C'est la capitale finalement des pratiques occultes.
Exactement, donc les gens étaient exilés donc, dans la Creuse. Avec leurs petites pratiques, leurs petites magies, comme c'était considéré à l'époque. Et en fait, c'est...
Pourquoi est-ce qu'on les a exilés là-bas, précisément ?
Parce qu'on en avait peur, en fait. Imaginez que la ventricolie revienne. Okay.
Et dans la Creuse, on savait qu'il n'y aurait pas de problème, on pouvait les garer là-bas.
La Creuse de l'époque est similaire à la Creuse d'aujourd'hui.
Il n'y a personne, quoi.
Il n'y a personne. Et
c'est très dur d'en sortir.
Très très difficile d'en sortir.
Et c'était un désert divinatoire en fait, c'est-à-dire que on n'avait pas accès à la divination dans la Creuse. Il y avait vraiment toute communication avec les astres qui était coupée.
C'est exactement. C'était similaire au réseau d'aujourd'hui, ça ne captait pas.
C'est très nuageux aussi, donc très difficile de regarder les étoiles.
Oui.
Donc voilà, on les a envoyés là-bas un peu pour disparaître.
Et pour une raison qui nous échappe encore aujourd'hui, les pratiquants de la divination ont peur des vaches. Ce qui était très pratique parce qu'il y a beaucoup de vaches dans la Creuse, donc ça les gardait un peu à l'écart. Ça. Ils étaient contrôlés par la peur.
Le fait est que, en effet, aujourd'hui, ils n'ont pas disparu. Et en effet, ils ont établi leur QG, si on peut dire ça comme ça, à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Et c'est là qu'on sont apparus justement des nouvelles pratiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas chômé. Et on a en effet donc, cette nouvelle pratique de divination qui est la lecture dans le poil de la main.
Donc une sorte de résistance en fait. On les a envoyés dans des territoires enclavés pour les détruire, mais finalement ils se sont organisés sur place pour revenir en force. Est-ce que ce seraient ces mêmes personnes que ces reptiliens dont vous parliez tout à l'heure, qui sont de plus en plus nombreux et qui ressurgissent
On va pas tomber dans le complotisme, mais le fait de les rassembler au même endroit, ça a eu le bénéfice de les retirer du reste de la population. Mais ça les a fait grandir et ça leur a donné un moyen d'échanger et ça les a rapprochés. Ça leur a créé un groupe très soudé. Est-ce que ce sont des reptiliens tous ? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas adepte de cette théorie. Mais le fait est qu'ils ont inventé beaucoup de choses en rapport avec la divination.
Puis l'information, je pense qu'il faut retenir, et Céleste Tessier, elle nous en parle en fait. Son livre, d'ailleurs intitulé « Désastre politique », je ne sais pas si vous avez compris le petit jeu de mots qu'il y a dans le titre de ce livre. Il y a le mot désastre, car en effet, si les astrologues, si les arts divinatoires venaient à revenir au pouvoir, comme ils l'ont fait avec François Mitterrand, avec sa maman, donc Elisabeth Tessier, si on a ce rapprochement finalement qui se fait trop, ça peut devenir dangereux. Et on le voit très bien aujourd'hui avec le gouvernement de M. Macron, qui se fait appeler Jupiter, comme de par hasard. Donc voilà, je pense que Céleste Tessier essaie de nous mettre en garde, car en effet, l'histoire nous a montré que le rapprochement du pouvoir et de l'astrologie et de l'art de la divination est dangereux et peut faire émerger des pratiques ignobles.
Tout à fait, d'où toutes ces pages 56 qui nous rappellent la projection dans le futur en 2056, une année à laquelle il faudrait faire attention.
Mais du coup, je me demande si ce n'est pas ce à quoi faisait référence. Vous avez dû voir ces militantes et militants écologistes qui étaient au César ou à Roland-Garros avec un décompte sur leur t-shirt. Est-ce que en fait, ça fait référence à cette date-là ?
Oui, il semblerait qu'il y ait certaines personnes qui soient rattachées à ces mouvements-là de revendication qui évoquent l'année 56.
Et oui, et puis vous parlez des écologistes, et en fait c'est pas anodin, parce que les écologistes qui sont intervenus lors de ces représentations étaient peints en une couleur, étaient peints intégralement sur leur corps en une couleur qui est le vert. Et c'est pas anodin finalement, c'est la couleur du lézard, c'est la couleur des reptiles, donc il faut qu'on soit attentive et attentif si on ne veut pas voir justement une nouvelle ventricolie.
Oui, d'ailleurs, page 56, Céleste Tessier cite Jules César, en italien dans le texte. Donc, « Verde era la sua corona, verde era il suo pesto nella sua pasta, verde tornera, attenzione, Giulio Cesare. » Qui signifie, si je traduis pour nos auditeurs les moins experts en italien, « Vert était ma couronne, vert était le pesto dans mes pattes, le vert reviendra, prenez garde. » Et il l'avait annoncé en fait déjà à cette époque que c'était pour lui une manière de rendre maléfique le lézard, l'animal, mais aussi la population, la part de la population. Et il disait attention, ce mouvement va ressurgir dans le futur.
Mais est-ce que par rapport à toutes ces prédications, un peu l'arrivée du tout numérique ou encore la crise du Covid ont chamboulé le milieu de la divination et de ses pratiques, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de crise où du coup c'est encore plus dur de pouvoir lire ces signes ?
C'est dur de les lire et en même temps, comme vous l'avez dit, on est dans un moment de crise et donc on est prête et prêt à croire n'importe quoi de plus en plus. Donc en fait, non, je ne dirais pas que c'est un frein. Si c'est ça que vous essayez de dire.
Moi, au contraire, d'après la partie que j'ai lue, je trouve que toutes ces crises qui touchent aujourd'hui notre monde sont particulièrement significatives pour montrer la pertinence de croire en le fait qu'il va se passer quelque chose en 2056. D'ailleurs, on sait que la première personne à avoir contracté le Covid en 2019 avait 56 ans.
Et venait du Morbihan, numéro département 56. Hein.
C'est vrai.
C'est tout à fait vrai.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, on va repartir dans les coïncidences. Je veux dire, on va repartir dans la divination.
Les coïncidences, pardon. Mais je vous rappelle que le nombre 56 est la somme des 6 nombres premiers consécutifs qui sont le 3, le 5, le 7, le 11, le 13 et le 17. Et ce n'est pas un hasard. Finalement, il y a, selon... Céleste Tessier, dans son ouvrage « Six combats qui vont converger jusqu'à l'année 2056 », on ne connaît pas encore ces six combats, mais c'est-à-dire qu'il y a au moins la crise sanitaire, la crise écologique, la crise liée au capitalisme et un certain nombre d'autres combats qui existent peut-être déjà, qui vont se développer ou d'autres qui vont émerger d'ici les prochaines années. Et ce qui est intéressant, c'est que Céleste Tessier finit la partie du livre que j'ai eu l'occasion de lire par un message très fort en nous disant que finalement, l'année 2056 sera la rencontre des six combats, la rencontre des six crises, la rencontre des reptiliens autour d'une seule et même revendication. On ne sait pas laquelle.
Donc finalement, ça pourrait être un message d'espoir, en fait, ce renouveau des arts divinatoires.
C'est quoi la couleur de l'espoir ?
C'est le vert, oui, vous avez raison. Mais Thierry Lafleur, vous aviez quand même plutôt, vous preniez plutôt le parti de proposer une vision critique du désastre en faisant un jeu de mots sur le titre. Bon, je ne suis pas bien convaincue que c'était là le propos de l'autrice.
Peut-être
mais bon,
pas.
Vous l'interprétez comme ça. Moi, j'avais plutôt lu un message d'espoir, en fait, dans cet ouvrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, j'ai une question pour Thierry. Thierry, vous qui êtes reptilien, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Karine comme quoi, quel est, selon vous, le combat des reptiliens en 2056 ?
Je ne suis pas reptilien. Et par contre, Karine...
C'était un piège et vous l'avez déjoué bien, bravo.
J'ai l'impression que ce livre vous a quand même pas mal passionné. Vous êtes découvert une passion pour l'astrologie ou qu'est-ce qui s'est passé, Karine ?
Alors, il faut que je vous avoue que ce livre m'a fait moi aussi me plonger dans mes propres histoires familiales et j'ai découvert que j'avais un grand-père astrologue et politicien.
Ah, oh, mais vous voulez dire que Pierre-Emmanuel Rinauda, c'est votre tendance à travaux ?
Tout à fait, le maire de Metz.
Ah, j'ai jamais fait le lien. C'est vrai que j'avais jamais
fait le lien. Donc, pour nos auditeurs qui ne savent pas, Pierre-Emmanuel Rinauda était maire de Metz entre 1944 et 1956. 6 pendant 12 ans, il a été.
Ouais, c'est des coïncidences.
Vous avez juste. Enfin, c'est. Oui.
Ce sont là des coïncidences. Mm. Voilà. Et justement, l'astrologie et ces gens-là qui ont essayé de manipuler finalement le pouvoir avec ces coïncidences, ce sont là les personnes dangereuses. Et là, ce que vous êtes en train de faire, Julien, Karine et Guillaume aussi, je vous vois bien, c'est dangereux. C'est dangereux, donc attention à ce qu'on fait parce que justement, si on surinterprète ces coïncidences, on se retrouve justement avec le chaos.
Comme
l'histoire nous l'a montré.
Non mais écoutez Thierry, personne ne souhaite que la ventricolie revienne.
Merci.
En tout cas, peut-être que dans 33 ans, on vous retrouvera dans la Creuse.
Ah, je suis bien d'accord avec ça.
Et nous arrivons déjà à la fin du temps imparti pour les questions. Et tout de suite, nous passons à la partie librairie pour donner plus de billes à nos auditeuristes pour explorer le sujet. Mais avant, nous vous laissons rêver encore un peu dans les étoiles avec Jesus Was a Capricorn de Kris Kristofferson. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM.
Jesus was a Capricorn, he ate organic foods. He believed in love and peace and never wore no shoes. Long hair, beard and sandals and a funky bunch of friends. Reckon they just nail him up if he come down again. Cause everybody's gotta have somebody to look down on. Who they can feel better than at any time they please. Someone doing something dirty, decent folks can frown on. You can't find nobody else and help yourself to me. Rednecks cussing, hippies for the hair. Others laugh at straights, you laugh at freaks, you laugh at squares. Some folks hate the whites, you hate the blacks, you hate the Klan. Most of us hate anything that we don't understand. Cause everybody's gotta have somebody to look down on. Who they can't be better than at any time they please. Someone do something dirty, decent folks can frown on. If you can't find nobody else, then help yourself to me. Help yourself, brother. Help yourself, Jim. Help yourself.
Et nous sommes de retour dans les Arpètes. Après un débat un petit peu houleux entre nos historiens et notre historienne invitée, nous passons maintenant à la partie biblio, en espérant que l'amour de la culture saura vous réconcilier.
Où est le livre ?
À la bibliothèque.
Et la musique danse ?
À la discothèque.
Et les discothèques ?
C'est bébé. Un, deux, trois, quatre.
J'imagine que pour être si pointu sur le sujet de l'astrologie et des sciences ésotériques, vous devez avoir un certain nombre de lectures à votre actif. Qu'avez-vous à nous recommander, à recommander à nos auditeuristes pour aller plus loin sur la question ?
Alors, moi, je veux bien rappeler que je suis pointu, en effet, mais sur l'histoire, et non pas sur l'ésotérisme. Je tenais à le rappeler. Et du coup, je vous invite, à ce titre, à lire mon livre, François le Lézard, où je traite justement de l'astrologie au pouvoir, justement de ces reptiliens qui ont émergé, de ce mouvement reptilien, dont on parle encore aujourd'hui à travers seulement des rumeurs, mais voilà, qu'on puisse factuellement dire ce qu'étaient les reptiliens et qu'on puisse juste être dans les faits, finalement. Donc voilà, ce livre-là, contrairement à Céleste qui fait un très bon travail sur l'histoire, mais elle s'égare, forcément.
Mais je tiens à rappeler aussi que votre livre a une seconde partie sur les imitations de François Ier de Lézard. Et j'aimerais que vous en fassiez une petite, Thierry.
Julien, je vous ai déjà dit tout à l'heure, vous m'avez déjà demandé d'imiter le lézard.
Mais c'est parce que je l'ai vu.
Je sais très bien où vous voulez venir. Vous voulez faire en sorte que à la radio, voilà, les gens se disent ah tiens, voilà un reptilien. Vous jouez un jeu dangereux, Julien.
Il y a des similitudes entre vous et le lézard, et c'est pas pour rien.
J'ai fini pour ma biblio, j'ai fini.
J'attire votre attention juste sur le fait que cet ouvrage n'est pas à confondre avec le livre François le Lézard aux éditions Jeunesse qui raconte l'histoire d'un petit lézard à l'école primaire.
Je suis toujours en procès avec eux d'ailleurs.
Vous pourriez du coup nous rappeler la date de parution et la maison d'édition pour qu'on ne fasse pas le...
Oui, alors François le Lézard aux éditions Flammarion, voilà, paru en 2002. Voilà, un ouvrage que j'ai à cœur.
Ah, donc un an après François le Petit Lézard aux éditions Jeunesse.
Je suis en procès, je ne me présenterai pas ici.
Quant à moi, j'aimerais vous lire un poème de Victor Hugo sur la ville de Metz. Le jour se lève sur cette sinistre contrée. Le matin est clair et j'entends les oiseaux chanter. Un bruit retentit dans la ville. Ce sont les premiers murmures de la divination. Je regarde du haut de la colline ce monde qui part en vrille. Je ne vais pas m'y perdre, je vais faire attention. Marchant dans les tavernes, parcourant les bars, je ne souhaite pas me faire avoir. J'ai peur ! Lorsque le délologue retentit, lorsqu'il agite ses dés sous mon nez, je fais attention à celui qui se dit poisson, mais qui en réalité lézard est.
C'est très beau.
C'est du Victor Hugo.
Ouais, c'est toujours émouvant, Victor Hugo. C'est vrai que ça me donne toujours un peu des larmes aux yeux.
Voilà, donc la ville de Metz, qui était à l'époque très mal famée, à l'époque de sa fondation, et fréquentée énormément par des gens qui pratiquaient les arts divinatoires.
Guillaume, vous aviez quelque chose à nous proposer pour notre bibliographie ?
Oui, en tant que présentateur d'émissions de radio, je vous conseille une émission de radio de nos confrères de Déologie 1, 2, 3, 4. C'est Pierre D, déologue, le dernier déologue français qui l'anime. En fait, le concept est très simple. Vous avez une décision à prendre, vous l'appelez. C'est grosso modo tous les jours entre 10h et 18h sur Radio D. Il va tirer avec un dé. Le lundi, c'est deux faces. Attention.
Une pièce, donc.
Oui, voilà. Mais pour un bon délologue, en fait, il n'y a pas de pièce, quoi. Tout est dé. Voilà, c'est un peu le concept. Voilà. Il va vous aider à prendre votre décision, quoi. Voilà. Donc, vous l'appelez, c'est en direct, il tire un dé, et le lundi, c'est deux dés.
Très bien.
Alors, je rappelle quand même à nos éditeurs et auditrices, voilà, attention Guillaume avec ce genre de message, voilà, ça ne doit être que pour le divertissement. Si vous prenez ces décisions sérieusement, des décisions sérieuses, on file tout droit vers le chaos et tout droit vers un deuxième 18e siècle. Donc voilà, faites attention mesdames et messieurs, je tiens à le rappeler quand même.
Et pour ma part, j'aimerais faire une recommandation pièce de théâtre. Alors je sais Thierry que vous n'aimez pas trop le théâtre, hein. Bon, peut-être qu'il y a un lien avec le fait que le verre soit déconseillé sur scène, mais ce n'est que mon avis.
Coïncidence.
Quelqu'un dirait même que le théâtre ne l'aime pas non plus, finalement.
Ah oui, on pourrait le dire.
D'ailleurs, je ne vous ai jamais vu dans un théâtre.
Non, jamais.
Je n'aime pas ça, voilà, je préfère lire, mais ça n'a rien à voir avec le verre, c'est fini ça.
En tout cas, à Thierry Lafleur et à tous nos auditeurs, auditrices, je vous conseille une pièce de théâtre qui tourne en ce moment dans les salles françaises, qui nous parle de la relation très proche qu'avait Valéry Giscard d'Estaing avec son astrologue, monsieur Pierre Petit, qui est devenu un astrologue connu, mais qui a disparu dans d'affreuses circonstances. La pièce de théâtre vous en dira plus, je vous la conseille.
Merci beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'elle est passée, c'était vendredi, jour de la Saint-Patrick, au Théâtre des Sans-Noms, au Hangar à Bananes.
Oui, tout à fait, exactement.
La Saint-Patrick, ben tiens.
En termes d'événements, on peut aussi parler de la Coupe Destination, bien sûr. Enfin, je ne vais pas m'étendre, mais on revient au chiffre 6.
Eh bien, ça nous fait une belle pile de choses à lire et de spectacles à aller voir et à écouter. Ça nous donne vraiment envie d'aller plus loin sur ce sujet qui reste bien mystérieux tout de même.
Bon, allez, on casse le mythe.
On vous rappelle que nous diffusons cette émission le samedi 1er avril.
Et qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire honneur à cette journée à notre manière.
Alors merci à nos historiens et historiennes d'un jour, Thierry Lafleur, Karine Rinauda, Julien Marel et Guillaume. Nous rappelons que vous pouvez retrouver l'équipe de l'Histoire avec un grand I et leurs improvisations sur des faits historiques qui n'ont jamais eu lieu tous les mercredis à midi sur Prune ou en podcast sur prune.net et les autres plateformes.
Et si vous souhaitez de vraies ressources sur la question de l'astrologie, nous vous proposons le podcast Méta de choc, dont 5 épisodes traitent la question avec Serge Brett-Morel, spécialiste de la critique de l'astrologie.
C'était l'émission Les Arpètes et on se retrouve dans un mois pour arpenter un nouveau livre sur un nouveau sujet avec des nouveaux invités.
Et on se laisse avec le morceau Macron démission.
Juste après nous, ce sera l'émission Coup de foudre. Et on se laisse là. Merci à tous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
Merci.